En fait, dans ma tête, c'était clair. Il était hors de question que mon statut de femme, ou que mon statut de maman, ou que mon âge, ou que mon origine, ou que ma situation sociale détermine à quel point j'ai le droit d'être ambitieuse. Ça m'a évidemment complètement retourné le cerveau. Et quand je suis rentrée de ce voyage, c'est là que j'ai décidé, OK, je vais faire ce projet que j'avais en tête depuis très longtemps, qui était de trouver une solution pour matcher le produit avec la bonne personne. Je crois que les gens réalisent pas ce qui est en train de se passer là. En fait, ce qui est en train de se passer, on l'attendait pas avant 15-20 ans. 26 ans niveau CM2, ORSA, maman solo, et puis je finis doctorante en pharmacie, diplômée de centrale, diplômée de l'ESSEC, admise à l'école 42. Et...
Quand t'es une femme, tu dois faire deux fois plus, et quand t'es rebeu, tu dois faire quatre fois plus.
Inspirons le féminin.
Inspirons au féminin.
Inspirons le féminin.
Inspirons le féminin.
Inspirons
au féminin.
Inspirons le féminin.
Dans ce podcast, tu vas découvrir des portraits de femmes qui s'adressent à toi. Que tu sois rebeu, africaine, asiatique ou d'autres horizons encore, quelle que soit ton origine, ton milieu social, tu découvriras ici des récits de femmes qui résonnent avec courage et détermination. Souvent invisibilisées dans les médias ou pas assez visibles sur la place publique, vous découvrirez ce qu'elles ont accompli dans leur domaine ou leur pays. Elles ont refusé de s'imposer des barrières à cause de leur origine ou de leur milieu social et sont allées là où on ne les attendait pas. Leur force, leur résilience et leur audace sont des témoignages vivants de ce qu'une volonté déterminée peut accomplir. Je suis Fatima et avec Inspirons le féminin, je vous propose de plonger au cœur de leur parcours exceptionnel. J'espère que chacun de ces portraits sera une source d'inspiration dans votre parcours et pour tracer votre propre chemin vers le succès. Si ces portraits de femmes vous inspirent, abonnez-vous au podcast pour découvrir d'autres récits sur Apple Podcasts et inscrivez-vous à la newsletter sur le site de inspironsleféminin.fr.
Bonjour Sarah.
Hello Fatima.
Hello, j'espère que tu vas bien. Je te remercie d'être là aujourd'hui sur le podcast avec moi sur Inspirons le féminin parce que je trouve ton parcours super inspirant, intéressant et en plus l'univers dans lequel tu te trouves me parle aussi. Et on va parler justement de tout ça et pour juste pour te situer, donc tu es Sarah, CEO de Cosmécode, qui est un outil qui permet de déterminer le fond de teint le mieux adapté à sa carnation. Mine de rien, c'est un très beau projet parce qu'on se dit, bon, c'est du fond de teint, beauté, mais en fait, on va voir que non seulement c'est très utile pour les femmes qui veulent avoir le bon teint en fonction de leur carnation, mais en plus très utile justement pour tous ceux qui font du business dans la beauté parce que tu vas nous en parler en termes de business model, c'est très intéressant économiquement, on peut développer d'autres marchés, on peut savoir plus sur ses clientes. Donc, un sujet super intéressant, en tout cas pour toutes les femmes, je pense qu'elles vont nous écouter, même les hommes, hein, qui sont peut-être qui travaillent aussi dans ce domaine-là ou qui veulent offrir du fond de teint. Ça va être un sujet super intéressant à discuter, à échanger, en tout cas aujourd'hui avec toi. Et je vais d'abord te laisser te présenter pour celles qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore.
Yes, alors moi, je dirige, comme tu l'as dit, Cosmécode. On est une start-up deep tech et beauty tech, c'est-à-dire qu'on développe des outils basés sur l'intelligence artificielle et plus particulièrement sur le deep learning pour les professionnels de la beauté. Donc voilà, tu l'as dit, notre toute première fonctionnalité permet de résoudre un des plus gros problèmes du secteur de la beauté, c'est-à-dire trouver sa teinte de fond de teint. Bah, figure-toi que pour 80% des femmes, qu'elles achètent ou non du fond de teint, pour 80% d'entre elles, c'est un problème. Réussir à trouver sa teinte de fond de teint est un vrai parcours du combattant. En magasin, c'est très difficile. En ligne, c'est de l'ordre de l'impossible. En général, les achats en ligne, ce sont plutôt des réachats de références qu'on connaît déjà. Mais dès qu'on veut passer sur une nouvelle marque qui nous fait envie, un nouveau produit qui nous fait envie, bah c'est pas possible. Faut aller en magasin. Et même en magasin, c'est compliqué.
Est-ce que le fait, on nous le met souvent ici, là, tu sais, sur le creux de la main, entre juste en dessous du pouce, là, sur la main, c'est le bon système ou pas? C'est ce qu'il faut faire ou pas?
Ben, je vais te poser une question. Quand tu achètes des chaussures, est-ce que tu les essayes sur ta main?
Non.
Et voilà, ben, c'est exactement c'est la pareil. Même chose. C'est exactement la même chose.
Mais en même temps, je pensais ça aussi. Je me dis, c'est pas possible parce que Je vois, ma main est un peu plus... Là, il fait beau, donc je bronze plus facilement des bras, des mains que du visage. Donc forcément, je n'ai pas la même teinte.
Totalement. Il suffit de faire l'exercice. Hein. Vous mettez vos mains à côté de vos visages. En général, vous avez une teinte différente. Donc non, très, très mauvaise idée d'essayer la teinte de fond de teint sur sa main.
Ok, tu vas nous dire après comment on fait, hein, du coup.
Yes.
Sarah, tu as un parcours assez atypique. Je crois que tu as grandi. Alors, si je ne me trompe pas, tu as grandi au Maroc. En tout cas, j'ai vu que tu as une carrière de journaliste dans les médias là-bas au Maroc. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, nous en parler un peu de cette période-là?
Alors, je n'ai pas grandi au Maroc. Je suis née ici. Je suis une pure Alsacienne, née à Guépinère. Ah, ils connaissent. non, j'ai grandi ici. Donc, une fille d'immigrée, hein, classique. Et puis, effectivement, j'ai eu une opportunité de travail au Maroc dans les médias. Et ce qui fait que j'y suis restée quelques années. Et puis là-bas, j'ai travaillé effectivement à la télé et à la radio.
D'accord. Donc, vraiment, dans la partie média, mais c'était une belle opportunité, du coup. Parce qu'en plus, c'est des chaînes, j'ai vu la chaîne 2M. Donc, une grande chaîne au Maroc, on peut dire que c'est l'équivalent de TF1 en France. Hein. Qu'est-ce qui t'intéressait justement dans les médias? Parce qu'après, tu as changé complètement de parcours.
Bah, écoute, c'était surtout une très belle opportunité qui m'a été offerte. Tu sais, moi, à 18 ans, je savais pas quoi étudier. En fait, tout m'intéressait. Et puis, comme j'avais pas forcément de modèle autour de moi pour me projeter, bah, je savais pas quoi faire. Du coup, j'ai pas fait d'études. Je me suis dit, je vais aller à l'école de la vie. Puis, c'est là que j'ai vécu pour la première fois le racisme, en fait, parce que je m'en rendais pas compte avant. Et donc, à 18 ans, 19 ans, en arrivant sur le marché du travail, je me rends compte qu'en fait, on me renvoie sans arrêt à mes origines. Chose qui me paraissait complètement lunaire.
Qu'est-ce que tu as eu comme remarque?
Tout le temps, « Ah, vous venez d'où ? Ah, d'où précisément ?» Et moi, je dis « Mais je suis française !» Et on me dit « Non, mais vos parents !» Ah oui, eux, ils viennent du Maroc. Mais du coup, je me suis dit « Mais en fait, je suis qui ? Je viens d'où ?» Parce qu'on me renvoie sans arrêt à un pays que finalement, je connais pas. Je parlais à peine la langue. Bon, j'y allais comme tout le monde un petit peu en été. Mais voilà, franchement, je connaissais pas beaucoup ces pays. Et puis, il y a eu une opportunité à un moment, ils recherchaient des animateurs et des humoristes pour la chaîne 2M, pour un programme un peu spécial. Et ma mère, elle m'a appelée, elle m'a dit « Ah, regarde, 2M, ils cherchent des animateurs et tout, et je te vois bien là-dedans. » Et je lui dis « Mais maman, le Maroc, tout ça, moi, je connais pas, non, j'ai pas envie. » Elle me dit « Si tu n'y vas pas, tu n'es pas ma fille. »
Donc, le chantage.
Tous les enfants de maghrébins connaissent ça, donc j'étais obligée d'y aller, évidemment. Et puis finalement, ça a été une superbe expérience. Déjà, on m'a donné une opportunité qu'on m'aurait jamais donnée ici en France. Donc, faire de l'animation télé, faire de l'animation radio et donc faire du journalisme ensuite par la suite. Donc, superbe opportunité. Et ça a fait que je suis restée 7 ans là-bas. Et finalement, j'ai renoué avec mes origines, avec d'où je viens. J'ai enfin compris. Et je porte maintenant avec fierté le fait d'être une enfant de Maroc. Et d'être moi-même marocaine.
Exactement, oui. Et du coup, ça t'a fait découvrir effectivement ton pays d'origine. Et je trouve que ça, c'est beau, en fait. Parce que les deux, en fait, sont liés. En fait, on peut l'être et française et marocaine à la fois. Donc, les origines, les connaître, c'est important.
Totalement, et puis c'est une richesse incroyable. Moi, je porte mes deux nationalités avec une très, très grande fierté. Autant quand j'étais plus jeune, qu'on me renvoyait à ma marocanité, je comprenais pas trop, j'étais un peu gênée. Aujourd'hui, non, je les porte avec fierté. Partout où je vais, Salem, je suis trop contente. Non, je suis très, très fière de porter ma marocanité et ma nationalité française, évidemment.
Et donc, t'es restée 7 ans là-bas et qu'est-ce qui s'est passé après? T'es rentrée en France et j'ai vu que t'as changé de parcours. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, les médias, finalement, je ne veux pas continuer là-dedans? Qu'est-ce qui t'a attiré? Parce que j'ai vu que ensuite, t'es allée vers la santé.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma vie personnelle a changé. Donc, je suis devenue maman. Évidemment, quand on devient maman, on remet tout en question, on remet toute sa vie en question. Et pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à me projeter beaucoup plus loin que la semaine prochaine. Donc, j'ai commencé à évidemment me demander ce qu'il en sera quand ma fille aura 10 ans, quand elle aura 15 ans, quand elle aura 20 ans, quand elle aura 30 ans, qu'est-ce que je fais? Et dans les médias, je bossais très, très bien. Honnêtement, au Maroc, j'avais des belles opportunités, mais je bossais trop. C'était incompatible avec le fait d'élever ma fille. Et je me voyais surtout pas continuer comme ça jusqu'à 60 ans. Tant que j'étais jeune, j'étais mignonne, j'avais des opportunités, mais je commençais à avoir les petites jeunettes qui arrivaient et qui commençaient à me menacer sérieusement. Et je me suis dit, voilà, je ne vais pas durer dans ce métier. Comme ça, ça ne va pas être possible. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Donc, j'avais le choix entre deux choses, soit reprendre des études, soit créer une entreprise. Et comme il paraît que choisir, c'est renoncer, du coup, j'ai décidé de faire les deux. J'ai décidé de faire les deux et de faire des études. Et pendant mes études, je suis devenue effectivement une étudiante entrepreneur, la première étudiante entrepreneur de ma fac.
D'accord. Donc, tu as décidé de faire les deux, donc entreprendre et étudier en même temps, tout en étant maman. De combien d'enfants à ce moment-là ? Parce que tu avais quoi, 26 ans, c'est ça ?
J'ai élevé 4 filles pendant mes études. Pour reprendre l'histoire, c'est au début déjà, quelles études ? Je me suis dit, quitte à reprendre des études, autant faire quelque chose de waouh. Soit je fais les choses bien, soit je les fais pas. Donc, j'ai dit, je me sens tout à fait capable d'aller faire un doctorat en santé. J'avais creusé un petit peu le sujet de la maladie mentale. Et ça a été mon premier contact avec le domaine de la santé. Et ça m'a passionnée. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et donc, je me suis dit, je veux devenir pharmacienne. Je veux devenir docteur en pharmacie. Et donc, effectivement, j'ai pas choisi le plus facile puisqu'il y a ce fameux concours de première année extrêmement sélectif. Et donc, voilà, je suis allée. J'ai réussi, grâce à Dieu. Honnêtement, je sais pas comment. Mais, et donc, à ce moment-là, j'avais ma fille. Donc, qu'une seule fille. Avec moi la plus petite. Et puis pendant mes années en pharmacie, en fait, je me suis retrouvée à quelques mois d'intervalle à élever 3 de mes cousines, donc qui étaient des pré-ados et des ados à l'époque, donc pour des histoires qui leur appartiennent et que je ne détaillerai pas ici. Mais voilà, je me suis retrouvée tout d'un coup, en quelques mois d'intervalle, maman solo de 4 filles pendant mes études en pharmacie, tout en étudiant en pharmacie, ouais.
Comment tu faisais justement pour jongler entre les deux ?
Honnêtement, je sais pas comment j'ai fait. C'est un mode survie qui s'est enclenché. Parce que oui, je raconte ça avec le sourire aujourd'hui, mais...
J'imagine que sur le moment, c'était pas facile.
J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Mais oui, donc déjà, le fait de devenir maman solo étudiante avec ma fille, il a fallu que je réimagine un petit peu tous les aspects de ma vie. Avec une seule fille, mais avec 4 filles, oui, encore plus, j'ai absolument tout remis à plat, tous les aspects de ma vie, que ce soit mon organisation, la gestion de mon temps, la gestion de mon argent, la gestion du temps, on n'en parle pas suffisamment, on parle beaucoup de gestion d'argent, mais on ne parle pas de la gestion du temps. Autant le capital, on peut le faire fructifier, l'argent, ça va, ça vient, ça disparaît, mais le temps, ça disparaît une bonne fois pour toutes et impossible de le récupérer. Et donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail autour de cette gestion du temps, justement, et je suis devenue une machine, quoi. À force, tout ce que je fais, ce sont des actions à forte valeur ajoutée, sinon je ne les fais pas. Je les fais vite, je les fais bien, et voilà, et je chronomètre quasiment à la minute près ce que je fais quotidiennement.
Oui, ben, j'imagine. Donc, c'est vraiment optimiser le temps parce que t'as et les études et les enfants. Donc là, t'avais pas le choix que d'avoir le maximum le temps optimisé pour pouvoir faire les deux, en fait.
Ouais, tout. Il a fallu que j'optimise tout. L'espace, le temps, l'argent, mon énergie, tout.
Est-ce que t'étais soutenue à ce moment-là? Famille, amis
Alors, moralement, oui, évidemment. Après, dans les faits, au quotidien, non, j'étais vraiment toute seule. Mes parents vivaient à l'époque à 100 kilomètres de la maison. Donc, ouais, non, le quotidien, c'était vraiment à moi de le gérer.
Mais tu tenais quand même à aller jusqu'au bout de tes études parce qu'à ce moment-là, tu aurais pu te dire, bon, bah, ça va pas être, ce sera peut-être plus facile d'avoir un travail directement pour pouvoir vivre correctement. Parce que j'imagine, quand t'es étudiante, tu vivais de quoi à ce moment-là?
Bah, j'avais la bourse étudiante, plus les petites aides qu'on connaît, hein, APL, ALOC, ce genre de choses. Donc non, c'était pas facile. Mais la question que tu me poses, je ne me la suis jamais posée. Pour la simple et bonne raison, projette-toi maintenant. Si j'étais allée travailler, ok, tout en étant maman solo de 4 filles. Certes, j'aurais gagné quoi, 400, 500 euros de plus par mois. Mais est-ce que ma vie aurait été beaucoup plus facile? La vie est dure de toute façon, quoi qu'on fasse, c'est dur, de toute façon c'est dur.
Il faut faire des choix en fait.
Il faut faire des choix.
Des choix et s'y tenir.
Exactement. Donc non, moi j'ai jamais eu, ça m'a jamais traversé l'esprit en fait. J'ai toujours dit j'irai au bout de ce que j'ai décidé de faire, quoi qu'il advienne. Et de toute façon c'est dur, donc ce sera un petit peu plus dur pour quelques années. Et ben c'est pas grave, tant pis, j'assume. Mais je veux ce résultat à la fin, quoi.
Bah, t'as bien fait, tu l'as eu d'ailleurs.
Hein, j'ai pas encore ma thèse, mais je suis en train d'écrire ma thèse en ce moment. Mais j'ai validé toutes mes années, ouais.
Ouais, t'as validé, t'as été diplômée doctorante en pharmacie, ton diplôme MS entrepreneur de Centrale ESSEC. T'as atteint ton objectif déjà?
Alors, j'ai atteint même beaucoup plus que mon objectif, parce que ce que tu as dit là, je suis allée intégrer une des plus grandes écoles de commerce et une plus grandes écoles d'ingénieurs de France. Et en fait, pourquoi j'ai fait ça? C'est encore une fois, moi, je comme ce que tu as dit tout à l'heure, la plupart des gens diraient, bon, c'est trop difficile, je vais aller trouver un petit travail et puis en attendant de patienter, etc. Et moi, j'ai jamais voulu me résigner, en fait. Comme je t'ai dit, je voulais être entrepreneur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un petit peu qui sont les entrepreneurs qui réussissent. Et j'ai vu qu'ils venaient tous des mêmes écoles, tous de HEC, de l'ESSEC, de Centrale, de Polytech. Et j'ai dit, je vais faire pareil. À l'époque, je savais absolument pas comment j'allais faire, ni aucune idée. Je sais pas, mais ce que je sais, c'est que je vais faire pareil.
T'as vu que tous les modèles avaient le même point commun, ils sortaient tous des mêmes écoles.
Exactement, exactement. Donc, j'ai dit, parce que, en fait, dans ma tête, c'était clair. Il était hors de question que mon statut de femme, ou que mon statut de maman, ou que mon âge, ou que mon origine, ou que ma situation sociale détermine à quel point j'ai le droit d'être ambitieuse. Il n'y a rien ni personne qui a le droit de déterminer à quel degré d'ambition j'ai droit. À part moi, mon intelligence et ma force de travail. Et mon Dieu, évidemment. Mais le reste, il est hors de question que ça détermine le reste de ma vie. Parce que je suis née dans telle famille, dont je suis très fière d'ailleurs, parce que je suis née avec tel moyen, parce que je suis née avec tel genre, parce que je suis devenue maman, ou parce que j'ai un parcours de vie qui fait que j'ai repris des études un petit peu plus tard que les autres. C'est pas question que ça détermine à quel point j'ai le droit d'être ambitieuse. Hors de question, je suis aussi intelligente que les autres, je suis encore plus travailleuse que les autres. Ça doit déterminer à quel point j'ai le droit d'être ambitieuse.
Tu as totalement raison, tu es la seule à ton propre gouvernail, parce que c'est de ta vie en fait. Donc c'est à toi de prendre des décisions et personne d'autre. Et d'où te vient justement cette ambition, le fait d'aller jusqu'au bout de ce que tu fais quand tu as un projet en tête?
Franchement, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, mais il y a un truc qui, moi, me fait sortir de mes gonds, c'est quand on me dit faut être un peu plus réaliste quand même. Faut être un peu plus raisonnable, madame, mademoiselle. Vous êtes peut-être un peu trop ambitieuse. Oh là 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 là, j'ai envie.
Ah, t'as déjà sorti ça.
Ah ouais, mais combien de fois on me l'a sorti. Surtout, moi, vu l'environnement dans lequel j'ai évolué, qui est un environnement, où clairement j'ai été un cas social pendant très longtemps, hein. Donc les assistances sociales, les aides, les machins, ouais, je connais ça par cœur. Et donc effectivement, ils avaient pas l'habitude de voir un profil comme le mien. Donc on me renvoyait sans arrêt à ma condition en fait, et on me disait
oui, qui pour toi était temporaire à ce moment-là parce que t'en avais besoin pour pouvoir atteindre un objectif que tu t'es donné en fait.
Exactement. Et on me disait c'est peut-être pas très réaliste, peut-être qu'il faut faire quelque chose d'un petit peu plus à votre niveau. Une fois, une dame m'a dit ouais, c'est bien, mais pourquoi vous faites pas prof? C'est très bien d'être prof. Bravo à ceux qui le font, mais moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de faire ça.
Et qu'est-ce que tu leur disais, toi, à ce moment-là, justement? C'est quoi que t'avais envie de faire?
Non, mais tu sais, moi, je parle pas. Je parle pas beaucoup. J'agis. Les gens, je les laisse parler. Les gens qui ont une opinion sur moi, je les laisse parler. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet. C'était la première année médecine, la fameuse première année médecine. Alors, il faut que ceux qui écoutent comprennent bien que cette première année médecine, il y a très, très peu de gens qui arrivent à passer en deuxième année. Par exemple, sur 2000 étudiants à Strasbourg, il y en a 130 qui passent en deuxième année pharmacie. Et dans ces 130-là, il y en a 80% qui arrivent à passer en deuxième année pharmacie après avoir refait la première année une deuxième fois. Donc moi, j'étais en première année. Lors des cours de mentorat, etc., j'étais toujours celle qui posait le plus de questions. Je levais la main et je posais des questions, mais qui paraissaient des fois complètement idiotes. Mais je m'en foutais complètement. Je sais que j'enquiquinais tout le monde, Mais je m'en foutais complètement. Déjà, il fallait que moi j'ai les réponses. Et en plus, je me disais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui n'osent pas poser les questions. Moi, je pose les questions pour eux. Et j'entendais systématiquement dans la salle, tu connais l'éducation française, la culture française. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est chiante, celle-là. Oh là là, mais elle peut pas se taire. Oh là là. Et personne ne pariait sur moi. Personne. Et j'ai passé la première année du premier coup. Comme quoi ça sert de poser des questions, comme quoi ça sert de ne pas écouter les gens, comme quoi ça sert de s'en foutre complètement de ce que peuvent dire les uns et les autres. Et voilà, moi je fais ce que j'ai à faire et franchement les gens qui veulent parler, bah, qui parlent, ça leur fait passer du temps parce que je sais que 5 minutes après ils m'ont oublié et moi je fais ce que j'ai à faire et c'est tout.
Ouais, tu restes focus. T'es focus sur ton objectif à toi. Ton objectif, c'était d'obtenir ton diplôme. Et s'il fallait poser 1000 questions pour pouvoir l'obtenir, bah, tu le fais et c'est tout. Peu importe ce qu'on peut en penser.
Je m'en fous.
T'as bien raison, hein, puisque ça t'a ramené là où tu es aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que t'as pas lâché et ça, c'est super. Mais est-ce que tu peux nous dire justement à quel moment t'as l'idée de te lancer dans la beauty tech?
Oh, alors ça, c'est déjà la beauté. Parce que moi, je vais en pharmacie. C'est pas forcément... Quand on va en pharmacie, on n'y va pas forcément pour faire de la beauté.
C'est ça, oui. Comment, justement, tu fais des études de pharmacienne, en même temps entrepreneur, mais à quel moment tu joins les deux, en fait?
Alors, moi, j'ai choisi pharmacie pour une raison très précise, c'est que je me connais, je sais que je m'ennuie assez vite. Donc, si je vais pas sur une variété de sujets, de challenges, je suis intellectuellement, je m'ennuie. Et c'est vraiment douloureux pour moi. Et du coup, la pharmacie, très très peu de gens le savent, mais en réalité, les études de pharmacie sont les études scientifiques les plus complètes. Avec un seul diplôme, on a accès à un éventail de métiers qui est incroyable. Donc moi, je me suis dit, c'est génial, j'ai un diplôme, je peux changer de carrière, je peux changer de métier, parce que je me connais au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, on apprend aussi quelles sont ses limites. Je sais que je vais pouvoir changer de carrière, changer de métier avec un seul et même diplôme. Super. Premièrement. Et ensuite, mes filles. Donc, comme je t'ai dit, moi, j'ai élevé mes filles, mes cousines. Je les ai élevées quand elles étaient préadolescentes et adolescentes. Et sans rentrer dans les détails, j'en ai deux d'entre elles qui sont certainement prédisposées aux cancers hormonaux. Et donc, quand elles ont commencé à être adolescentes, elles ont commencé à vouloir se mettre des trucs, se mettre des produits, des crèmes, du déo, des trucs comme ça. Et moi, j'étais étudiante en pharmacie et je me dis, j'ai mon alarme intérieure qui s'est allumée. Je me dis, aïe, 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 faut quand même que je regarde ce qu'elles se mettent sur la peau, quoi. Maintenant que j'ai quelques compétences, faut que je commence à analyser et à creuser le sujet. Et en fait, c'est grâce à mes filles que je me suis intéressée au secteur de la beauté, dont je suis totalement tombée amoureuse. Je trouve que c'est un secteur, mais qui est passionnant, qui est à la fois scientifique et à la fois créatif. Et moi, pour moi, c'est l'idéal, quoi. C'est le genre de domaine dans lequel moi, je m'éclate. Et donc, voilà, c'est grâce à mes filles que j'ai fait un premier pas dans le secteur de la beauté. Donc, j'ai expérimenté pas mal de choses, de la formulation, etc. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait une problématique. C'était la cliente, elle a du mal à trouver le produit qui lui correspond. Le matching produit-client, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème quand on n'y connaît rien et c'est un vrai problème quand on commence à comprendre, même pour moi qui commençais à vraiment comprendre les formulations, etc. Même pour moi, c'était compliqué. Et donc, cette idée de problème de matching client-produit est restée dans ma tête. Ensuite, j'ai été admise au sein du master spécialisé entrepreneur et on a eu la possibilité d'aller à San Francisco avec l'ESSEC. Donc San Francisco, c'est la Silicon Valley, c'est le futur, c'est voilà. Donc j'ai eu le cerveau complètement retourné en allant là-bas parce que là-bas ils te disent pas t'es trop ambitieux. Là-bas ils disent t'es pas assez ambitieuse.
Là-bas, c'est vas-y, fonce.
Là-bas, c'est tout l'inverse. Là-bas, on te dit si tu viens pas nous parler en milliards de dollars, ne viens pas nous parler. On n'a pas le temps. Là-bas, si tu leur parles pas en milliards avec des objectifs en milliards, ils te disent on veut pas te voir, on veut pas te parler. C'est une toute autre mentalité. Et donc, ça m'a évidemment complètement retourné le cerveau. Et quand
ça t'a inspiré.
Ouais, ça m'a beaucoup inspiré. Et quand je suis rentrée de ce voyage, c'est là que j'ai décidé, OK, je vais faire ce projet que j'avais en tête depuis très longtemps, qui était de trouver une solution pour matcher le produit avec la bonne personne. Je sais que ça va passer par de l'informatique, je sais que ça va passer par du code informatique. J'y connais rien. Je sais pas coder, je connais aucun langage, j'y connais vraiment rien, mais je sais que je vais le faire. Encore une fois, toujours la même.
Je t'ai donné l'objectif, je vais apprendre à coder, c'est bon.
J'ai l'objectif, je sais pas comment je vais y aller, mais je sais que je vais trouver un moyen pour y aller. Et donc, voilà, je suis rentrée de la Silicon Valley, j'avais cet objectif-là, et j'ai évidemment commencé, comme tout le monde, par chercher un associé technique. C'est 99% des hommes, et évidemment, quand je leur parle de beauté, de make-up, etc., bon, ça leur passe par-dessus la tête. J'ai beau leur dire que c'est un marché de quasiment 900 milliards.
Mais oui, c'est un énorme marché, la beauté, donc
mais ça leur parle pas. Énorme marché, énorme potentiel business. Et donc, je me suis dit, bon, j'ai pas l'habitude d'attendre l'autorisation de qui que ce soit pour faire ce que j'ai envie. Donc, tant pis, je vais aller apprendre à coder. Et donc, je suis allée dans la meilleure école d'informatique, qui est l'école 42, pour apprendre à coder. Puis, à ma grande surprise, j'ai été acceptée. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre à coder, à faire des premiers prototypes, des premiers essais. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à ce qu'on fait aujourd'hui.
D'accord, donc c'est comme ça, donc c'est à travers ce voyage-là que tu t'es dit, par rapport à l'idée que tu avais en tête de matcher le produit avec le client, parce que tu t'es rendu compte justement de cette problématique-là sur le marché, tu t'es dit, voilà, ça serait une bonne idée de mettre ça en place, et le voyage à San Francisco, en tout cas, t'a donné l'impulsion d'entreprendre sur ce projet-là, et t'as appris à coder, en fait, pour pouvoir développer ton premier prototype.
Yes.
Ah ben c'est génial. T'es passé de l'idée direct à l'action.
Yes, et puis surtout, j'ai acquis les compétences. Donc aujourd'hui, j'ai les compétences vraiment à 360 pour diriger une entreprise beauty tech, donc qui est donc la pharma pour la compréhension des produits, le business, donc les secs, puis le code avec l'école 42.
Tout à fait, ouais. T'as les trois points importants pour pouvoir couvrir l'ensemble des sujets. Mais du coup, quand tu te lances, donc t'avais déjà l'idée de matcher, on va dire, le client avec le bon produit fond de teint en particulier.
C'est arrivé après. Moi, avant ce voyage dans San Francisco, je voulais faire un business tout à fait classique, un e-shop, un e-commerce qui propose des produits cosmétiques que j'aurais sélectionnés sur la base de la qualité de leur formule, etc. Clean beauty, on connaît le mouvement. Mais quand j'ai fait mon prévisionnel, heureusement que je suis allée à l'ESSEC pour ça, parce que sinon je me serais cassé la figure, je me serais cassé les dents. Là, je fais mon prévisionnel, et puis je pense que tes auditeurs connaissent toutes les notions de marketing digital. Là, je me rends compte que le coût d'acquisition est incroyablement élevé. C'est simple, je vais donner des chiffres. Moi, j'avais un coût d'acquisition que j'estimais entre 12 et 33 euros. Hyper élevé. Mon panier moyen dans le secteur de la beauté, il est de 51 euros. Donc, c'est juste pas possible, en fait. Même en ayant 50% de marge brute, c'est juste intenable. Et moi, je voyais des projets un peu comme ça qui se lançaient. Et quand j'ai fait mon prévisionnel, là, je me suis rendu compte de la catastrophe et je les voyais se lancer et je les voyais foncer droit dans le mur. Et effectivement, il y a un projet similaire qui s'est monté, c'était il y a 3 ans déjà, hein, qui s'est monté à ce moment-là, un projet concurrent. Effectivement, il y a quelques mois, elle a dû fermer. Et donc, effectivement, il y a quelques mois, elle a dû fermer. Elle n'a pas eu le choix. Mais moi, à ce moment-là, je savais que ça allait arriver pour elle. Malheureusement. Et heureusement, on me demande souvent, est-ce que ça vaut le coup de faire ce genre de formation d'entrepreneuriat dans les grandes écoles, etc. Oui, ça m'a juste sauvé énormément d'argent et ça m'a sauvé au moins 3 ans de ma vie que j'aurais passé sur un projet qui, de toute façon, se serait cassé la figure.
Oui, donc du coup, tu te rends compte que c'est pas assez rentable au final.
Et là, je me dis, OK, moi, les coûts par clic, je les ai pas inventés, en fait. C'est les coûts par clic du secteur. Donc, ça veut dire que je suis pas la seule à avoir ce problème. Ça veut dire que les autres acteurs aussi ont ce problème-là en ligne. Et effectivement, je suis allée interroger d'autres acteurs du secteur. Ils m'ont tous dit, oui, les coûts d'acquisition en ligne, c'est horrible. Et il y a cet acteur-là qui, à l'époque, fin 2020, avait fait... je me souviens, 19 millions de chiffres d'affaires, quelque chose comme ça, énorme chiffre d'affaires, uniquement en ligne. Mais la patronne des bureaux français m'a dit, Sarah, ça fait 4 ans qu'on essaye d'être rentable, on n'y arrive pas. Donc, on va devoir fermer les bureaux français et rapatrier toute l'activité à Londres parce qu'on n'y arrive pas. Donc, énorme volume, énorme chiffre d'affaires, mais pas de rentabilité à cause des coûts d'acquisition.
À cause des coûts d'acquisition, parce que, ouais, on rappelle que comme beauté, c'est très concurrentiel. À partir du moment où on va aller chercher du prospect, ça a vraiment un coût assez important.
Exactement. Et donc là, je me dis, OK, donc il y a cette énorme problématique business dans le secteur de la beauté. Ça veut dire qu'il y a une opportunité business. Donc, une opportunité business, comment on résout ce problème? Comment est-ce qu'on renoue avec la rentabilité en ligne? Il y a deux possibilités. Soit tu arrives à faire venir plus de trafic pour moins cher que Facebook, que Google et qu'Insta et que Meta et compagnie. Moi, je vois pas comment faire. Il faut réussir à faire un nouveau TikTok, mais honnêtement, moi, je suis très, très ambitieuse, mais là, ce truc-là, je l'ai pas craqué, donc je sais pas comment faire. La deuxième solution, c'est une fois que tu as ramené ce trafic-là, au lieu de faire en sorte qu'il y ait que 1, 2, 3% de conversion, bah, tu fais en sorte qu'il y en ait 4, 5, 6.
D'augmenter le taux de conversion.
Hein. D'augmenter le taux de conversion. Et là, c'est comme si toutes les pièces du puzzle s'étaient remises en place. Je me dis, purée, mais l'outil de conversion le plus puissant qu'on a dans la beauté, c'est le conseil. Quand tu réfléchis, tu vas en magasin physique, t'es accompagné par quelqu'un qui comprend ton besoin, qui est formé sur les produits, etc. On te recommande des produits, tu repars avec au moins un des produits qui t'a été recommandé. Donc là, je dis, OK, il y a cet outil de conversion qui est overlooked par tout le monde. Moi, je le trouve fascinant, le conseil. Comment est-ce qu'on fait pour le digitaliser? Et c'est vraiment comme ça que ça a démarré. Donc, à mon retour de San Francisco, c'est là que j'ai eu toute cette réflexion. Et c'est là que j'ai décidé de travailler sur la digitalisation du conseil.
Bah, super intéressant. C'est intéressant de voir comment tu es parti d'une idée, tu l'as confrontée au marché, tu as vu que tu n'étais pas rentable. Et ensuite, donc après, tu l'as fait évoluer vers vraiment cette opportunité, cette niche, on va dire, qui est très importante. Je suis tout à fait en phase avec toi. C'est vrai qu'en ligne, reproduire cette partie conseil, c'est assez compliqué. Donc, il fallait trouver. Personne ne s'y est vraiment penché. Donc, c'était vraiment une belle opportunité de marché que tu as trouvée là, en fait.
Ouais, totalement. Et puis, l'expérience en ligne aujourd'hui, elle va de toute façon être transformée avec toutes les innovations technologiques, l'intelligence artificielle. Donc, l'expérience client qu'on connaît aujourd'hui ne sera pas la même dans 10, 15, 20 ans. Il faut s'y préparer, il faut se préparer au changement et on peut pas continuer à proposer des fonds de teint en magasin et à proposer des produits en magasin comme on le faisait il y a 100 ans avec nos grand-mères. En fait, nos grand-mères, elles avaient exactement la même expérience client que nous aujourd'hui, sauf que ça va pas durer. Ça va changer, ça va beaucoup évoluer, tout va évoluer. Et donc, nous, on est prêts, quoi. On est prêts à accompagner le changement et on est prêt à accompagner les marques et les professionnels de la beauté à réussir cette transition.
Et c'est une question justement que j'allais te poser un peu plus tard dans l'interview pour avoir ton regard justement sur l'intelligence artificielle et le domaine de la beauté. Mais avant ça, je voulais savoir, quant à cette idée-là, pourquoi en particulier le fond de teint? Parce que ça aurait pu être peut-être d'autres produits.
Alors ça aussi, c'est une histoire. Alors ma thèse, je l'ai faite sur l'innovation en général. Donc, je voulais comprendre comment une innovation réussit et comment une innovation vit un échec. Donc, heureusement que j'ai fait ça parce que j'ai compris que l'innovation, c'est pas juste une idée. Et souvent, l'idée qu'on a au départ, bah, dans 90% des cas, en fait, elle fonctionne pas parce qu'on a des intuitions qui sont pas forcément bonnes. Donc, ce qu'on fait quand on veut innover, quand on veut réussir à développer quelque chose dans l'innovation, c'est qu'il faut prototyper, tester, prototyper, tester, prototyper, tester. J'invite les auditeurs à se pencher sur le Lean Startup, la méthodologie Lean Startup, pour ceux qui auraient envie d'aller vers l'innovation. Voilà, moi, c'est celle que j'ai appliquée. Et donc, il fallait prototyper. Donc, je me suis dit, OK, l'intelligence artificielle qui donne du conseil à des clientes, etc. Moi, je trouve l'idée géniale, mais est-ce que ça va vraiment marcher? Donc, j'ai décidé de prototyper une application en no-code où on a mis deux parcours. Un parcours soin de la peau et un parcours maquillage, d'accord? Sachant que, informatiquement parlant, il fallait des codes très, très, très différents selon les différentes catégories de produits. Le code informatique n'est pas le même selon que tu recommandes du soin de la peau ou selon que tu recommandes du maquillage. Donc, on a fait ce prototype-là où on donnait l'illusion aux utilisateurs que c'était une intelligence artificielle qui leur répondait, qui leur recommandait les produits les plus adaptés par catégorie de produits. La réalité, c'était moi derrière.
J'ai recommandé, en fait.
Avec un fichier Excel, j'avais fait des sous-catégories de peau en fonction des problématiques de peau. Et j'avais fait par catégorie de produits des recommandations que je trouvais pertinentes. Et donc, on a mis ça entre les mains de 3000 utilisateurs ont eu connaissance de cette application à l'époque. Et donc, mon but, mon objectif, c'était de voir combien de personnes allaient appuyer sur acheter le produit. Et mon idée, c'était, si jamais quelqu'un payait, d'aller acheter le produit en magasin et de l'envoyer, et, voilà, de rien gagner dessus. L'idée, c'était pas de faire de la marge, c'était vraiment de tester. Et à ton avis, combien de personnes ont cliqué sur le parcours skincare, soin de la peau? Combien de personnes ont cliqué sur le bouton acheter le produit?
En se basant sur des conseils de l'intelligence artificielle.
Alors, c'est une intelligence artificielle qui te demande tes caractéristiques de peau, etc. Et qui te dit, en fonction de ta peau, en fonction de tes goûts, en fonction de ton budget, on va te faire de l'hyper-personnalisation et de la recommandation hyper affinée pour toi. À ton avis, combien ont cliqué sur « Ah ouais, j'aime bien, j'achète le produit »
Sur 3000 personnes? Ouais, je pense qu'il ne doit pas en avoir beaucoup, en fait, non? Je sais pas, je dirais 10% peut-être.
Eh ben, zéro.
Ah oui, quand même. Zéro sur 3000, même s'ils ont eu, même avec une recommandation hyper précise.
Même avec la meilleure des intelligences artificielles, zéro. Et pourtant, les produits que j'ai recommandés étaient très bons. Hein. Ça, parce que moi, je connais par cœur le marché. Donc, les produits, je les ai analysés en long, en large et en travers. Donc, non, zéro. Je suis allée demander à quelques utilisatrices, je leur ai demandé, OK, donc, comment ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce que t'en as pensé? Voilà. Et on me dit, ah ouais, mais c'est trop marrant, c'est une intelligence artificielle, c'est hyper ludique. Et je dis, mais finalement, pourquoi t'as pas acheté? Je sais pas, mais en fait, comment elle réfléchit, cette intelligence artificielle? Elle se base sur quoi, en fait? Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème de confiance et de légitimité. Quand t'es en point de vente, que t'es face à un conseiller ou à une conseillère, la personne, elle est légitime, qu'elle soit nouvelle, qu'elle soit ancienne, qu'elle soit expérimentée ou pas, qu'elle connaisse les produits ou pas, elle est légitime aux yeux
des
clientes. Une intelligence artificielle, non, parce que les gens comprennent pas, en fait, comment l'intelligence artificielle réfléchit, comment elle fonctionne. Et donc là, je me suis dit, OK, donc, ça va pas le faire parce qu'il faut passer par toute une étape de d'évangélisation, d'éducation du consommateur. Je sais que c'est hyper long, ça coûte beaucoup d'argent que je n'ai pas, c'est mort. Par contre, sur la partie make-up, là, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens comprennent que là, il s'agit de couleurs, par exemple, quand on recommande de la couleur. C'est une couleur qui ressemble à une autre couleur. Ou une couleur qui est complémentaire à une autre couleur. On a tous un petit peu les notions de couleurs complémentaires avec la roue chromatique, etc. Voilà, on comprend, en fait, comment ça fonctionne. On arrive à intellectualiser.
Comme les colorations, etc. Donc, c'est vrai que quand il y a des photos, on le visualise mieux peut-être qu'un soin de la peau où on a du mal à visualiser, à voir comment ça peut recommander quelque chose.
Exactement, c'est tout à fait ça. Et donc, moi, j'avais pas du tout l'idée de faire du maquillage avant ça. Moi, je suis une pharmacienne, donc forcément, c'est la partie soin de la peau qui m'intéresse le plus. Mais quand j'ai vu ce résultat-là, je me suis dit, OK, il y a définitivement quelque chose à faire sur le maquillage et notamment sur la teinte de fond de teint qui est la fonctionnalité qui a le mieux marché. Et j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se faisait sur ce sujet. Je me suis rendu compte qu'il y avait personne encore qui avait vraiment réussi à craquer le truc et à développer quelque chose qui fasse une bonne recommandation. Et c'est là que j'ai dit, OK, on va faire que ça. Mais on va être les meilleurs. C'est une toute petite fonctionnalité qui n'a l'air de rien, mais l'impact est monstrueux. Et puis surtout, quand on commence à réfléchir complémentarité de couleurs, là, on couvre l'ensemble des produits make-up, la coloration, même la mode. Le potentiel business est monstrueux. Et donc, j'ai dit, on va se laser focus sur cette toute petite fonctionnalité. Il n'y a personne qui ne fait que ça, mais on va être les meilleurs là-dessus.
Alors concrètement, sur la partie maquillage, qu'est-ce que t'as constaté quoi? Les gens, ils ont acheté quand même ou ils sont allés jusqu'au bout et les retours, c'était quoi?
Ils sont allés jusqu'au bout de l'expérience et puis effectivement, quand je demande en quali, je leur demande mais votre expérience en général sur l'achat de fond de teint, ça se passe comment? Alors sur 100 femmes, il y en a 18 qui vont me dire « Moi, je veux pas acheter de fond de teint, j'ai pas l'intention d'en acheter, j'aime pas ça. » Il y en a que 18. Tout le reste, c'est des prospects potentiels. Sur tout le reste, c'est simple, elles ont toutes du mal à trouver leur teinte de fond de teint. Toutes. Et c'est marrant parce que quand je fais une présentation, je demande dans la salle qui parmi vous a déjà acheté du fond de teint. Donc tout le monde lève la main, enfin toutes les personnes concernées. Je leur dis gardez la main en l'air. Celles qui ont du mal à trouver leur teinte de fond de teint, gardez la main en l'air. Les autres, baissez la main. Il y a personne qui baisse la main.
Tu baisses la main.
Il y a personne qui baisse la main. Tout le monde a du mal à trouver sa teinte de fond de teint. Donc c'est une grosse galère. Qu'on n'a toujours pas réussi à craquer. C'est une galère en magasin, c'est impossible en ligne. Et voilà, mais nous, on arrive.
C'est génial d'avoir fait cette expérience-là, puisque ça t'a montré le chemin vers lequel il fallait aller, du coup, le maquillage auquel tu n'avais même pas pensé au départ. Donc, c'est ça qui est complètement fou. Et quand tu te rends compte de ça, qu'il y a cette problématique sur le fond de teint, concrètement, comment tu penses aux outils, comment tu passes à l'action pour... Et comment tu le penses, c'est-à-dire en amont, quand tu mets en place cette stratégie, tu dis bon, je vais développer un outil qui va permettre aux femmes de trouver plus facilement le bon fond de teint qui correspond à leur teint. Est-ce que tu le penses en B2C ou en B2B?
Non, je le pense en B2B tout de suite. J'ai jamais voulu aller vers le B2C parce que justement cette fameuse expérience avec le e-commerce m'a démontré à quel point le marketing digital était clé comme compétence pour réussir un projet B2C. Compétence que je n'ai pas et que très sincèrement je n'ai pas envie d'avoir. Je sais que tes auditeurs vont pas aimer, mais honnêtement le marketing digital, je trouve ça beaucoup trop frustrant. Ça veut pas dire que je vais jamais le faire. C'est juste qu'il faut que je trouve les bonnes compétences pour intégrer l'équipe pour le faire à un moment. Mais le marketing digital, c'est extrêmement frustrant. Et moi, t'as compris un petit peu ma personnalité. Je suis extrêmement indépendante. Et le fait de dépendre de plateformes comme Meta, comme Google, et d'attendre leur bon vouloir et de savoir que c'est eux qui fixent les coûts par clic et qui sont un petit peu en train de tous nous étrangler avec des coûts d'acquisition monstrueux. Moi, ça me rend malade juste. Philosophiquement parlant, ça me rend malade. Donc non, je peux pas jouer.
Donc le B2B était plus adapté parce que là tu vas en direct, tu vas discuter en direct avec les marques qui alors comment ils ont quand tu as pensé l'outil, tu as d'abord discuté avec eux pour savoir s'ils étaient intéressés ou pas, parce que je pense que pour eux c'est très intéressant comme outil.
Clairement, et puis là aussi ce que je me suis dit, c'est chacun son métier quoi. Il y a déjà énormément de marques. Il y a déjà énormément de produits sur le marché et ils savent très, très bien faire du marketing digital, faire de la communication, faire du branding, tout ça. Eux, ils savent le faire. C'est leur métier, c'est leur cœur de métier. Moi, je vais pas venir et commencer à faire... Enfin, j'ai pas de valeur ajoutée là-dessus. Par contre, sur la techno, oui, là, je peux apporter de la valeur. Je peux apporter quelque chose de différent, quelque chose dont ces acteurs-là ont besoin. Donc, ouais, on est en contact avec pas mal d'enseignes depuis le début. C'est une techno que tout le monde essaye de craquer. Et donc, des fois, les interactions se passent bien. Des fois, les interactions sont un peu plus compliquées parce qu'en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est nous pomper, nous pomper ce qu'on fait. Et nous, on veut pas forcément.
Bah oui, vous n'allez pas leur donner tout ce que vous avez développé derrière.
Quoi. Exactement. Donc,
parce que ça t'a pris combien de temps en plus à mettre en place cet outil?
Donc, plus de 2 ans. Plus de 2 ans
plus aujourd'hui. Plus de 2 ans, oui. Ah ouais, c'est 2 ans de recherche, de tests, de développement, etc. Et tu avais un investissement dès le départ ou tu as fait
non,
tout
Non, on a tout bootstrappé. Donc, on a tout financé nous-mêmes. Évidemment, avec des aides de la BPI et un prêt bancaire. Et également France Active qui nous a accordé un prêt à taux zéro. Pour l'instant, la levée de fonds, le fait de faire rentrer des investisseurs... l'occasion s'est pas présentée. J'ai essayé un petit peu de chercher l'année dernière, en début d'année. J'ai vu que la version au risque ici en France est vraiment trop importante. Donc, j'ai dit soit je perds mon temps à essayer de convaincre des gens qui de toute façon veulent pas être convaincus, soit je passe mon temps à développer le produit et à sortir le plus vite possible un truc qui fonctionne. Et donc, évidemment, j'ai fait mon choix.
T'as sorti quelque chose qui fonctionne aujourd'hui. T'as déjà des premiers clients d'ailleurs. Est-ce que juste tu peux nous dire justement comment ça fonctionne?
Ben non.
Non,
je peux pas dire.
C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce que tu vends aux professionnels?
Je leur vends une techno en marque blanche. Donc l'outil est complètement customisé avec leur charte graphique, leur logo, etc. On peut même customiser l'expérience utilisateur s'ils veulent rajouter des étapes ou des choses comme ça. Voilà, donc nous, on le vend totalement en marque blanche. On ne nous voit pas, en fait, quand l'utilisatrice vient tester le produit.
Donc, en gros, donc tu leur vends en marque blanche outils qu'ils mettent sur leur site et ça permet aux utilisateurs de mieux identifier le fond de teint qui va avec leur teint.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est un peu comme dans la mode. Tu sais, dans la mode, tu as les outils maintenant. Quelle est ma taille? Quand tu veux choisir un pantalon ou un haut et tu n'es pas sûr de la taille, bah, y a de plus en plus de petits outils comme ça qui te permettent, qui t'aident à déterminer correctement la taille. Je parle pas des tableaux où tu dois te mesurer au même. Alors, je parle vraiment d'outils basés sur l'intelligence artificielle qui fonctionnent vraiment bien. Bah, c'est la même chose, en fait, mais pour le fond de teint.
Comment, justement, cette solution a été accueillie par les professionnels? Comment tu leur as vendu? Ce que tu leur as dit, justement, c'est pour aider améliorer plutôt vos taux de conversion?
Comme je t'ai dit, c'est une problématique que tout le monde essaye de craquer depuis quelques temps maintenant. Non seulement pour une histoire de taux de conversion, mais aussi pour une problématique d'inclusivité. Parce que là, j'ai pas parlé des peaux noires, mais l'offre disponible sur le marché pour les peaux noires est ridicule par rapport aux teintes médium et aux teintes claires, et même pour les peaux très très claires. Hein. Là, y a quasiment pas d'offre. Et donc le fait de réussir à développer ce genre d'outils, ça permet de mesurer les opportunités business manquées. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les marques, elles savent ce qu'elles vendent, mais elles ne savent pas ce qu'elles manquent en termes d'opportunités. Quand tu as une cliente qui rentre, deux clientes, trois clientes, 10 clientes qui rentrent, et que tu mesures leur carnation, et qu'en fait, leur carnation, elle est entre la teinte 8 et la teinte 9, tu vas voir la marque et tu leur dis, c'est dommage, si vous aviez une teinte 8,5, vous auriez potentiellement pu faire 10 ventes de plus. Il y a une opportunité business incroyable qui est à côté de laquelle les marques passent parce que leur offre n'est pas assez inclusive, mais parce qu'elles ne mesurent pas la carnation de leurs clientes, tout simplement. Donc, c'est là que nous, on vient apporter de la valeur.
C'est là que vous apportez justement la solution. Et comme tu le dis, sur les peaux noires, par exemple, il y a différentes teintes. Il n'y en a pas assez aujourd'hui sur le marché, mais il pourrait y en avoir beaucoup plus par rapport à toutes les teintes qui existent réellement.
Ouais, c'est ridicule. Quand sur des teintes médiums, tu vas avoir 20 teintes différentes et sur les peaux noires, tu en as 3. Alors qu'il y a des sous-tons aussi, il y a des sous-tons neutres, il y a des sous-tons dorés, il y a des sous-tons froids aussi sur les peaux noires, il y a des nuances. et ça, malheureusement, quand on voit l'offre aujourd'hui sur le marché, bah, elle est clairement pas suffisante.
Et du coup, aujourd'hui, t'as pu signer avec pas mal de clients. Comment ça se passe justement? Depuis quand il est sur le marché, en fait?
Depuis le début de l'année 2023. Donc oui, on est en discussion très avancée avec quelques gros acteurs du secteur. Je peux pas disclose les noms, mais ouais, on est en discussion très avancée avec quelques acteurs.
J'interromps quelques secondes l'épisode pour faire une mise à jour de celui-ci. En effet, il a été tourné il y a quelques mois déjà avec Sarah. Depuis, il s'est passé beaucoup de belles choses pour elle. Sarah a signé ses premiers clients et a participé au Beauty World Middle East 2023 à Dubaï. Et depuis, elle continue à travailler pour transformer l'expérience client dans la beauté. Et avant de vous laisser reprendre notre échange, je voulais vous dire merci si vous êtes en train d'écouter Inspirons le Féminin. Sachez qu'un épisode comme celui-ci, c'est du temps, mais aussi de l'investissement financier. Alors pour m'encourager et continuer à faire vivre le podcast, merci à vous de prendre une petite minute pour me mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de m'aider. Allez, je vous laisse reprendre notre échange. Je vais te poser justement une dernière question sur la beauté. Quel impact, selon toi, donc l'intelligence artificielle, justement, va avoir la prochaine année dans ce domaine-là?
Je crois que les gens ne réalisent pas ce qui est en train de se passer, là. En fait, ce qui est en train de se passer, on ne l'attendait pas avant 15-20 ans. Donc, tout est en train de s'accélérer à une vitesse qui est vertigineuse. Et clairement, les usages vont être complètement transformés. On va tous passer par une période un petit peu chaotique de tests, etc. Mais avec évidemment la data, les choses vont se normaliser. On va comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, etc. Mais il faut s'attendre vraiment à ce que l'expérience client soit complètement bouleversée à l'avenir, ça c'est sûr. J'ai aucun doute là-dessus.
Parce que justement, les outils vont permettre d'analyser beaucoup mieux et plus, de façon beaucoup plus pertinente les besoins des utilisateurs. Donc forcément, il faut s'adapter.
Bah, imagine, aujourd'hui, tu rentres sur un site e-commerce en ligne et tu te retrouves avec des centaines de produits différents et de fiches produits différents et tu dois lire chaque fiche produit pour bien comprendre le produit et pour déterminer lequel est adapté pour toi ou pas. T'as quelques filtres, mais voilà, c'est pas non plus foufou. Demain, ce sera plus possible ce genre de choses. Demain, tu rentreras avec la computer vision, on va pouvoir analyser ton visage, on va pouvoir analyser tes caractéristiques, ta carnation, mais aussi tes caractéristiques de peau, te faire un diagnostic de peau et te proposer une expérience en ligne entièrement personnalisé. C'est-à-dire, toi, Fatima, l'expérience que tu auras en ligne demain ne sera pas du tout la même que celle que moi j'aurai parce qu'on est unique, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, parce qu'on n'a pas la même peau, parce qu'on n'a pas la même carnation. Et puis aussi, au-delà de ça, on n'a pas les mêmes goûts aussi. Moi, j'aime pas les parfums fleuris. J'adore les parfums fruités, j'aime pas les parfums fleuris. Les textures huileuses ne me dérangent pas. Mais par contre, ma fille, elle, c'est mort. Il lui faut des textures un peu crémeuses ou gélifiées. Mais l'huile, c'est même pas la peine. Et à partir de là, on va pouvoir chacun et chacune avoir des expériences entièrement personnalisées dans le futur. Ça, ça ne fait aucun doute pour moi.
Donc, on va aller vraiment vers un futur où la personnalisation sera vraiment primordiale. On le voit un petit peu quand même dans le monde de la beauté où on a déjà des crèmes qu'on peut faire sur mesure, par exemple, qu'on peut faire soit les commander, soit les acheter, enfin acheter une espèce de machine, je crois, qui nous permet de faire notre propre crème sur mesure. Mais effectivement, la personnalisation, c'est, comme tu dis, je pense que c'est vraiment, elle est déjà un petit peu là et ça va être de plus en plus parce que forcément, on n'a pas les mêmes peaux, on n'a pas les mêmes, on est tous uniques. Donc forcément, il nous faut des produits qui soient adaptés à nous. Bah, hâte de voir cette évolution. Et d'ailleurs, de toute façon, j'ai vu que sur LinkedIn, aussi, tu es très active et que tu publies aussi pas mal là-dessus. Je crois que c'est ton réseau de prédilection.
Oui, 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 j'aime beaucoup LinkedIn. Alors, on m'a dit, faut être visible. Moi, Instagram, j'ai du mal. TikTok, encore plus. Parce que TikTok, c'est marrant, mais j'ai pas le temps. Et la création de contenu, c'est un vrai métier, en fait. Hein. Les gens prennent ça à la légère, mais non, si on veut être efficace et ne pas poster dans le vide et vraiment avoir du reach, etc., c'est un vrai métier, ça s'improvise pas. Ça, je l'ai compris assez vite. Je sais où je suis compétente et je sais où je le suis pas non plus. Et clairement, les réseaux sociaux classiques, je suis pas compétente, quoi. Je peux pas le faire. Par contre, LinkedIn, ouais, je m'y retrouve. C'est professionnel, c'est corporate. Ma cible, elle est là, de toute façon, puisque je suis en B2B. Voilà. Donc ça, c'est un réseau qui me parle, dans lequel je me sens bien et où j'aime bien créer de la valeur et apporter aussi sensibiliser sur le sujet de l'intelligence artificielle parce que finalement, il y a beaucoup d'ignorance encore autour de ces sujets-là et puis notamment auprès de ma cible, hein, les professionnels de la beauté aussi sont pas encore très au point sur toutes les questions liées à l'intelligence artificielle. Donc, c'est un plaisir de poster sur LinkedIn.
Oui, j'ai vu que tu étais très active dessus. Effectivement, en plus, B2B, donc tu es sur le bon réseau, forcément. Tu racontes aussi ton parcours et tu as vu un fameux post qui a très bien marché.
4 millions de vues quand même.
4 millions de vues, il fallait le faire.
Mais c'est marrant parce que je l'ai écrit en 1 minute 30. Et en fait, je l'ai écrit juste pour respecter un objectif que je m'étais fixé où je m'étais dit, faut que je poste. Je me souviens plus combien je m'étais dit à l'époque, genre 2 fois par semaine ou quelque chose comme ça. Et le lundi, c'était le moment où je devais poster. Et il fallait que je parte. J'étais super en retard. Et je me suis dit, bon, j'écris un truc vite fait, mais vraiment pour respecter mon engagement, quoi. Parce que moi, ma philosophie, c'est fait vaut mieux que parfait. Donc, au moins, c'est fait. Et c'est justement parce que c'est condensé, c'est hyper hyper synthétique et j'ai résumé un petit peu ma vie en quelques bullet points avec une photo un petit peu sympa de moi lors de ma remise des diplômes où j'expliquais un petit peu mon parcours que j'étais partie de 26 ans où j'avais un niveau CM2 avant de reprendre mes études, hein, quand j'avais fait une évaluation, il y avait des exercices niveau CM2 que j'arrivais pas à faire. Donc 26 ans niveau CM2, ORSA, maman solo, et puis je finis doctorante en pharmacie, diplômée de centrale, diplômée de l'ESSEC, admise à l'école 42, et puis voilà, avec cette petite photo sympa, et ça a explosé, 4 millions de vues, ouais.
Ouais, un très beau poste, j'ai vu 4 millions de vues, donc c'est assez énorme, hein. C'est vrai que peut-être c'est la spontanéité en fait qui a fait que ça a bien marché aussi, je pense, hein. Donc je pense que ça, clairement, moins on est dans le calcul, moins on est dans la réflexion, et plus effectivement on est dans l'engagement.
Et puis, fait vaut mieux que parfait, toujours. C'est quelque chose que j'ai appris justement en étant maman solo avec mes filles. À un moment, faut arrêter de chercher la perfection. Faut arrêter de se dire, ah ben non, tant que c'est pas parfait, je fais pas. Non, fait et tant pis.
voilà, c'est bon. Et on verra, quoi. C'est pas grave.
Les résultats sont beaucoup, beaucoup plus importants quand on fait les choses plutôt que d'attendre qu'elles soient parfaites. Vraiment.
Eh ben merci beaucoup. J'arrive à la question de la fin, Sarah. Justement, c'est quoi tes défis d'ici la fin de l'année, parce qu'on est à moitié de l'année avec Cosmecode?
C'est de consolider les partenariats qui sont en train de se mettre en place maintenant. Voilà, de les consolider, de les valider, et puis de continuer sur la voie qu'on a empruntée, parce que les signes montrent que c'est la bonne voie. Donc voilà.
Quel conseil justement tu donnerais aux femmes qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale ?
Il faut trouver le bon équilibre entre réfléchir et agir.
Parce qu'on a tendance à trop réfléchir.
À trop réfléchir. Et en même temps, des fois, c'est bien de réfléchir aussi. Comme si je m'étais lancée sur le truc de e-commerce là, sans réfléchir, sans faire de prévisionnel avant, sans bien analyser le marché et les facteurs clés de succès et les facteurs d'insuccès, j'aurais perdu au minimum 3 ans de ma vie pour rien, quoi. Donc voilà, trouver le bon équilibre entre réfléchir et agir, des fois quand il y a pas de raison de trop réfléchir, bah agissez, quoi. Quand il y a pas grand chose à perdre, faut y aller.
Si tu avais le pouvoir de changer quelque chose pour les femmes, ce serait quoi ?
Leur niveau d'ambition. Ah, j'ai envie de pleurer quand j'en parle, mais les femmes qui se résignent et qui se limitent à cause de croyances limitantes, pas parce qu'elles ont envie, mais parce qu'elles pensent que c'est comme ça, moi, ça me rend dingue. Faut arrêter de regarder ce qui se passe autour, parce que les statistiques sont clairement pas en notre faveur. Donc, si on cherche des modèles, etc., on va avoir du mal à en trouver. Il y en a heureusement quelques-uns, mais qui sont encore beaucoup trop rares. N'aie pas honte d'être ambitieux, c'est pas un gros mot, l'ambition. C'est pas un gros mot.
Il faut l'être, en tout cas, il faut revendiquer quand on l'est vraiment.
Exactement. Et puis il y a cette citation qui dit pour atteindre les étoiles, il faut viser la lune, quoi. Donc tant pis, c'est pas grave. Avoir un niveau d'ambition élevé, ça veut pas dire qu'on va atteindre cet objectif-là qu'on s'est fixé, mais en tout cas, on est sur le chemin pour, et puis on dépassera de toute façon un objectif beaucoup plus petit qu'on se serait fixé en étant raisonnable et réaliste.
Entre guillemets. Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien ?
Mes filles. C'est important que je réussisse parce que j'ai envie d'être un bon modèle pour elles. J'ai envie de leur montrer que... Alors, elles ne sont pas obligées d'être aussi ambitieuses que moi. Hein. Moi, je suis un peu extrême aussi dans mon, dans mon délire. Je suis un peu extrême. Non, on n'est pas obligé d'être aussi ambitieux que moi, mais j'ai pas envie qu'elles se limitent. Voilà. J'ai pas envie qu'elles se limitent toutes seules. Si elles se limitent à certaines choses, je veux que ce soit en conscience et parce qu'elles ont fait le choix de le faire, parce que ça leur va, parce que ça leur convient. Mais pas parce que elles ont pas de modèle autour d'elles ou parce qu'elles sont pas imaginées. J'ai une anecdote à ce sujet. Une fois, je me promenais sur les réseaux. Et puis, je vois une petite blonde toute mignonne, adorable, qui parle, mais avec une passion et une énergie incroyable, d'automobile, de voiture, de voiture de course, des bolides incroyables, etc. Et puis, je commence à regarder. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, c'est cool, l'automobile. Et c'est fou parce que jamais dans ma vie, une fois, j'ai ouvert cette porte-là où je me suis dit, ah tiens, l'automobile, c'est peut-être un truc que je devrais explorer. Pas une fois. Et pourtant, j'en ai bouffé du turbo quand j'étais petite, hein, sur MC.
Oui, c'est vrai, qui passait le dimanche.
Qui passait le dimanche. Et jamais ça m'a traversé l'idée ah, mais peut-être que dans l'automobile, il y a des opportunités. Il a fallu que je voie une femme en parler pour ouvrir cette porte dans mon cerveau. Et donc, c'est ça que j'ai envie. J'ai envie que toutes les portes soient ouvertes, qu'on ouvre toutes les portes dans le cerveau des filles et qu'on leur dise que tout est possible et qu'elles choisissent en conscience. Pas parce qu'elles sont limitées par leur manque de modèles, pas parce qu'elles sont limitées par leurs croyances, mais vraiment en conscience.
Exactement. Non, je te rejoins complètement. De dire que tout est possible. Et ensuite, c'est à toi de faire le choix de là où tu veux aller, jusqu'où tu veux aller, mais sache que tout est possible. Ça, c'est un très beau message, je pense, à faire passer à toutes les femmes, à nos filles, moi-même étant aussi maman solo de deux petites filles.
Yes.
Donc, c'est très important. Je te rejoins complètement là-dessus. Est-ce que tu peux nous citer une femme dans le paysage entrepreneurial, ou pas d'ailleurs, qui t'inspire?
Il y a la première qui me vient à l'esprit, c'est évidemment Kelly Massol, la fondatrice des Secrets de Loli, une marque de produits capillaires pour les cheveux frisés, bouclés, crépus. Son histoire est hallucinante. Elle a démarré avec rien aussi, personne croyait en elle. Elle a démarré dans sa cuisine avec 1 500 euros, elle a investi à l'époque. Et puis aujourd'hui, elle parle en dizaines de millions, elle veut conquérir le monde. Enfin, moi, je la trouve, mais hyper
ouais, très inspirante.
Une femme noire en plus. Alors moi, c'est franchement, c'est un modèle de fou pour moi. Elle me donne beaucoup, beaucoup de courage. Et puis il y en a une autre. C'est aux États-Unis. Elle s'appelle Sarah Blakely et elle a créé la marque Spanx. C'est une marque de gaines. Alors c'est rigolo parce qu'elle a réussi à faire une licorne. Mais tu vois, on n'en entend jamais parler de cette fille. Elle a fait une licorne avec des culottes quand même, avec des gaines de grand-mère. Et pourquoi? Parce que elle est allée, en fait, elle a constaté que les gaines qui existaient sur le marché, bah, ça boudinait, ça roulait, ça gainait pas bien, ça faisait mal. Et quand elle est allée chercher, en fait, elle s'est rendue compte que c'était des hommes qui faisaient ce business-là et ils n'avaient pas l'idée simple de simplement demander aux femmes. Est-ce que ça vous convient ou pas? Et donc, elle a dessiné tous ses modèles sur bah, des vraies femmes, quoi, de toutes formes, etc., des femmes de son entourage. Elle est ressortie avec des bons modèles, les bonnes coupes, les bons tissus, etc. Et elle a commencé à les placer dans un magasin, deux magasins, trois magasins, etc. Et puis aujourd'hui, c'est une licorne, je pense. C'est une énorme boîte et elle m'inspire beaucoup. Et c'est pareil, c'est une femme qui a pas de limite dans sa tête et qui s'en fout complètement de ce que les gens disent ou croient à propos d'elle. Elle trace sa voie, elle sait ce qu'elle est en train de faire, elle sait que c'est juste, elle sait qu'elle est en train de répondre à un vrai besoin. Grosse, grosse, grosse inspiration, Sarah Blakely.
Ouais, je te rejoins aussi. Je connais son histoire et c'est vrai qu'elle est très inspirante aussi. Elle a démarré aussi en partant de rien et c'est ça qui est vraiment fou. Et là où elle en est aujourd'hui, c'est vrai qu'elle mériterait... On la voit un petit peu plus.
Ouais, et avec des culottes, quoi. C'est ça qui est incroyable. Tu viens avec un business de culottes gainantes, on te rit à la figure. À l'époque, en tout cas, on lui riait à la figure. Aujourd'hui, ça va, on commence à être un petit peu, un minimum prise au sérieux, mais pas encore énormément. Mais ouais, c'est dingue, avec des gaines, quoi. Incroyable.
Est-ce que tu as un proverbe, une maxime qui t'accompagne?
Oui. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ça, c'est pour moi, il y a rien d'impossible.
Est-ce que tu as un podcast, livre ou documentaire que tu recommandes souvent, que tu voudrais partager avec nous?
Il y a un livre que j'ai lu dernièrement que je trouve parfois borderline, mais en même temps, je trouve que c'est important de le lire. C'est Les 50 lois du pouvoir, The 50 Laws of Power. Je trouve que ouais, tout le monde devrait le lire. Pas simplement pour soi-même apprendre à manipuler un petit peu son environnement en sa faveur, mais aussi pour comprendre les lois, ce qui a emprise sur nous en fait, et pour s'en détacher, pour être en toute conscience. Ouais, c'est un super livre, je le recommande.
Très bien, bah écoute, bah merci beaucoup Sarah pour ton parcours, pour tes bonnes vibes, pour ce super projet que t'as lancé. Avec tout ce que tu as pu avoir, quoi. Donc, je trouve ça génial. Maman, 5 filles, étudiante. c'est vraiment super inspirant. Merci, en tout cas, de m'avoir accordé du temps, de nous avoir raconté cette belle histoire. Et je te laisse le mot de la fin.
débarrassez-vous de toutes les limites que vous mettez dans votre tête. En fait, les limites les plus difficiles à dépasser, ce sont celles qu'on s'impose à soi-même. Mais en vrai, quand on fait sauter ces limites dans sa tête, tout devient possible. Moi, ce que j'ai fait sur le papier, c'est impossible. C'est impossible. 4 filles avec une bourse étudiante, doctorat en pharmacie, développer une beauty tech qui commence à devenir une référence sur le secteur. C'est impossible sur le papier. Mais sauf que moi, dans ma tête, j'ai fait sauter tous ces verrous, j'ai fait sauter toutes ces limites et je me suis dit, au pire, voilà, un jour, on va tous mourir. Donc, autant faire quelque chose d'un petit peu marrant avant. Et puis voilà, de toute façon, la vie est dure. Je sois prof ou secrétaire ou docteur en pharmacie ou dirigeante de Cosmécode, de toute façon, c'est dur. Tout le temps.
De toute façon, il y aura toujours des épreuves. Après, le plus important, c'est de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Je pense que c'est là où ensuite on se déploie et en général, ça roule, quoi, si on est au bon endroit.
Exactement. Donc, je demande aux femmes qui nous écoutent d'analyser leur vie. Est-ce qu'elles trouvent que c'est dur ou pas aujourd'hui? Est-ce que ce serait vraiment différent si elles faisaient vraiment ce qu'elles aiment? Bien sûr que ce serait dur, mais autant le faire.
Merci beaucoup Sarah pour cette interview et je te dis à très bientôt.
À très très vite.
Vous avez été inspiré, ce portrait vous a touché, dites-le moi en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est une manière authentique de montrer votre gratitude envers nos invités qui ont partagé leur parcours unique. C'est également un moyen formidable de soutenir la continuité d'Inspirons le Féminin. Votre soutien est précieux pour moi et pour les invités. Et pour rester connecté et ne rien manquer des prochaines rencontres inspirantes, rejoignez notre communauté via la newsletter sur inspironsleféminin.fr. Vous pouvez également suivre le podcast sur les réseaux sociaux LinkedIn, YouTube et Instagram. Votre engagement et votre feedback sont précieux pour moi. Merci d'être une part de cette aventure et de contribuer à propager ces histoires inspirantes. À bientôt pour de nouvelles rencontres enrichissantes dans Inspirons le Féminin.